Je le groupe congolais avec un aéron de la présentation.
Bonsoir, relance de la MIBA, la délégation syndicale accorde un ultimatum de 4 jours à l'État congolais pour trouver des solutions à la crise qui sévit dans cette entreprise. Comment expliquer la chute de cette entreprise, jadis ce fleuron de l'économie congolaise, et que faire pour relancer les activités de la MIBA après toutes les promesses faites par les autorités congolaises? 3 invités participent à cette émission. Lance Moigna, coordonnateur national adjoint du projet d'appui au secteur des mines Promines, une structure qui dépend du ministère des Mines du gouvernement central. Dieudonné Kabamba, premier vice-président de la délégation syndicale de la MIBA. Michel Soumoui, économiste et administrateur délégué général de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises congolaises Fenatec. Vos réactions nous sont déjà parvenues. Docteur Théo Kalongi de Yaoundé au Cameroun. La situation que traverse la MIBA m'étonne et m'inquiète, alors que les pays comme le Botswana prévoient une forte croissance liée à l'exploitation du diamant. Nous, nous voulons enterrer la MIBA. Je pense que les raisons de cette chute sont politiques. Augustin Mwango de Kindo Maniema, je pense que les revendications de ces agents, des agents de la MIBA sont légitimes et garanties par la constitution congolaise, mais l'expérience nous renseigne que de telles démarches n'aboutissent à rien en RDC, vu l'indifférence de nos autorités. Merci de nous suivre à Kindu dans la province du Maniema sur 103.0 FM et partout au monde sur RadioCafé.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue groupe congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
La délégation syndicale de la MIBA accorde 4 jours à l'État congolais pour trouver des solutions à la crise qui sévit dans cette entreprise. L'ultimatum est contenu dans un mémorandum adressé au ministre congolais du portefeuille. Pour en parler, nous avons en ligne, en direct de Mbujimayi, Billy Yvan Lutumba. Bonsoir Billy.
Bonsoir Alain.
Vous êtes un des correspondants de Radio Capi dans la ville des Mantifères. Pour commencer, quelles sont, Billy, les grandes lignes du mémorandum des agents de la MIBA?
Alain, le mémorandum a été rédigé le 17 juin dernier. Il est adressé au ministre du portefeuille avec copie à toutes les autorités du pays, partant de la présidence de la République jusqu'aux institutions provinciales. Dans le mémorandum, le comité de la délégation syndicale recommande à l'État congolais de cesser de manifester une indifférence meurtrière à l'égard de la MIBA et de son personnel. Pour le syndicat de la MIBA, 5 raisons militent en faveur de ce mémorandum. Il s'agit parmi elles du manque de concrétisation de toutes les promesses faites pour la reprise des activités de production à la MIBA, même au niveau de la présidence de la République. Il y a également la cession des carrés miniers vitaux pour la MIBA à la nouvelle société d'investissement minière Utiboué, l'exploitation diamantifère dans le polygone par des draps des coopératives privées.
Comment la délégation syndicale pense-t-elle réagir en cas de suite non favorable à ces revendications?
La délégation ne veut pas d'emblée dire ce qui va venir. Toutefois, elle programme une assemblée générale avec les employés juste après la date butoir. C'est au cours de celle-ci que des actions à entreprendre seront décidées. Toujours est-il que le personnel qui s'occupe du gardiennage pourrait abandonner l'outil des productions avec toutes les conséquences qui peuvent s'en suivre. C'est pourquoi, dans le souci d'un maintien de la paix sociale et de la protection des biens de la société, la délégation syndicale exige la paix avant le 25 juin des arriérés des 6 mois des salaires rabattus. Autre exigence à l'un, la signification par la MIBA à chaque agent de la hauteur de la dette sociale avant la même date et le retrait des grades privés exploitant dans la concession MIBA.
Pour terminer, à la veille de la célébration du cinquantenaire, Billy Van Lutumba, comment expliquer la chute de la MIBA qui autrefois, on le sait, était l'un des fleurons de l'économie congolaise?
Dans les échanges que nous avons eus avec quelques travailleurs qui ont œuvré pendant de longues années au sein de l'entreprise MIBA, il apparaît que c'est avec l'avènement de l'AFDL que la flèche a pris une orientation vers le point zéro. Le tout premier mois de l'occupation de la province par l'AFDL, le nouveau pouvoir en place avait exigé des anciens dirigeants de la MIBA de lui remettre toute la production mensuelle. Cela s'est répété encore des mois après, explique ces travailleurs. À part ceci, il y a eu des nominations à différents postes de l'entreprise des personnes qui ne disposaient d'aucune expertise technique de la MIBA, principalement ce qui concerne l'exploitation, la production et même la commercialisation.
Merci Billy Van Lutumba et bonne soirée en Mbujimayi.
Merci à toi, Chala.
Dieudonné Kabamba, bonsoir, vous êtes en ligne? Oui, je rappelle que vous êtes premier vice-président de la délégation syndicale de la MIBA. Pourquoi cet ultimatum au gouvernement congolais?
Merci pour la question. Il s'est de signaler ici que ce n'est pas la délégation syndicale qui a lancé cet ultimatum. Ce sont les patrons, les vaillants travailleurs de la MIBA qui l'ont fait. Parce qu'aujourd'hui, ils sont moribonds, abattus, fatigués, n'en pouvant plus de force. Ils ont exprimé leur souci dans une assemblée générale devant les bureaux de la délégation syndicale. Ils ont dit, d'ici le 25, il faut que les activités reprennent à la MIBA. Donc la date en question émane de l'expression du cri de détresse de laborieuses agents MIBA, toutes catégories confondues, ne sachant plus à quel sens se vouer. Alors devant cette situation, si selon la délégation syndicale MIBA constitue un danger, les délégués syndicaux que nous sommes avons pris nos responsabilités pour éviter que le pire n'arrive, pour éviter que la paix sociale ne soit entamée. Nous avons écrit au ministère des tutelles pour proposer des solutions qui se trouvent dans notre mémorandum que Billy a bien commenté tout à l'heure. Donc, il appartient à l'État congolais et à son associé, tous ceux qui sont dans une insouciance manifeste à l'égard de nos féminités, de prendre des dispositions utiles pour redonner, s'il le faut, ou rendre l'espoir au personnel et, par conséquent, préserver leur patrimoine.
Alors, Dieudonné Kabamba, vous demandez au gouvernement congolais que d'ici le 25 juin, les activités reprennent à la MIBA. Êtes-vous vraiment réaliste?
Nous sommes réalistes parce que nous savons que il y a tous ici au Congo et quelles sont les activités que nous pouvons reprendre. Jusque là, reprendre les activités comme par le passé, je peux te dire que ce n'est pas facile, mais nous sommes en activité, nous assurons le gardiennage. Le gouvernement nous a promis de nous donner mensuellement un montant de l'ordre de 550 000 dollars pour que nous fassions même cela. Ce n'est pas possible. Ça fait à peu près 6 mois que cela nous est promis et ne nous est pas donné. C'est une activité que nous sommes en train de faire. Au moment où je vous parle, il y a les vaillants blondos, les vaillants surveillants, les gardes miniers. Ils sont à la traque des clandestins. C'est un travail, mais ils produisent. Il y a le corps médical, le corps enseignant, qui produisent, qui travaillent. Donc, si les autres de la production ne produisent pas comme par le passé, il y a d'autres chantiers qui essayent de faire le minimum qui leur est demandé. Les activités, bien sûr, ça demande beaucoup, mais c'est le gouvernement qui connaît comment il peut relancer cette activité. Il y a eu plusieurs missions qui sont effectuées sur le mouvement. Il y a eu plusieurs délégations qui sont venues. Et nous étions même tous, d'ailleurs, votre radio a relayé plusieurs messages en ce sens-là. Si alors aujourd'hui ce n'est pas possible, donc, qu'est-ce que nous devons faire, interpeller le gouvernement congolais? Pourquoi il y a eu toutes ces missions? Pourquoi il y a eu toutes ces promesses si ce n'était pas réaliste? Donc, c'est au gouvernement congolais de se poser la question de savoir si réellement il n'a pas été réaliste en faisant cela.
Alors, avant de donner la parole aux autres intervenants, Dieudonné Kabamba, y a-t-il déjà une réponse quelconque de la part des autorités?
Jusque-là, à part notre employeur direct ici sur place qui est face au lieu aussi, nous n'avons aucun contact avec la hiérarchie de la République. Nous entendons par là le gouvernement. Aucune réaction.
Voilà. Lems Kamanya, bonsoir, vous êtes en ligne. Vous êtes coordonnateur national adjoint du projet d'appui au secteur des mines promines, structure qui dépend du ministère des mines du gouvernement central. Comment vous analysez cet ultimatum des agents de la MIBA?
Moi, je pense que c'est leur droit le plus strict. Hein. C'est-à-dire, il y a une promesse et un engagement du gouvernement. Bien sûr que cet engagement s'est traduit par l'inscription de 20 millions de dollars que le gouvernement a promis d'apporter à la MIBA dans le budget 2010, qui est actuellement en exécution. Mais c'est vrai que jusqu'à ce jour, les réactions tardent pour cet engagement. Alors, les agents, ils ont le droit d'adresser et de secouer un peu le gouvernement pour qu'ils s'occupent de leur situation. Moi, je pense que
C'est une réaction normale.
Alors, on a suivi Dieudonné Kabamba, délégué syndical. Les agents fixent l'ultimatum au 25 juin pour que les activités reprennent. Vous avez suivi ma question, j'ai demandé si c'était réaliste.
Mais justement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre... Je crois que ce n'est pas du tout réaliste, parce que quand on dit les activités reprennent, quel type d'activité? Il faut rappeler que l'engagement du gouvernement vis-à-vis de la MIBA pour les sommes qui avaient été promises dans le score équivalent de 20 millions de dollars, c'était pour entamer d'abord les 1 million de réhabilitation des installations de la MIBA avant de procéder à la production. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas se dire que dans 2 ou 3 mois, la MIBA peut reprendre une production. Je crois avec les temps qui est passé, et les degrés de l'abrénat des installations, avec les vols et les vandalismes qui s'effectuent là, il faut compter 4 à 5, voire 6 mois pour que les installations soient remises à niveau avant de voir la première graine de diamant être produite. Et ça, c'est une chose. Deuxièmement, je ne pense pas qu'avec l'effectivité pendant un temps aussi court, 4 jours, que le gouvernement puisse mettre tous ses moyens à l'exposition de la MIBA. Ce qui est réaliste, ce qui peut être faisable, c'est de payer 500 000 dollars de salaire pour permettre aux gens de la MIBA de pouvoir traiter l'indépendant, les cinquantenaires avec tout le monde. Donc ça, c'est une décision qui peut se mettre rapidement en place. Mais la reprise de la production dans 4 jours avec tout ce qu'il faut, c'est vraiment une utopie.
Alors, l'Amskamoigna, nous sommes à la veille du cinquantenaire. Hein. Comment expliquer que la MIBA, jadis fleuron de l'économie congolaise, en soit arrivée à cet état?
Bon, moi je pense que cause, on peut rassembler 3 grandes familles de causes qui ont fait que la MIBA se retrouve là où elle est aujourd'hui. Premièrement, je pense que ça a été des problèmes de gestion, de grandes décisions qui ont été prises au sein de la société au moment où et réaliser ses meilleures performances. Parce qu'en son temps, on exploitait les diamants à l'hiver, qui était la trouvée facile à exploiter, qui est épuisé aujourd'hui, et on n'avait pas songé de remplacer les outils de production qui commençaient à devenir vétustes, et même à arriver à les moderniser pour que plus tard, on exploite actuellement les diamants Kimberley, qui est maintenant en vue, et qui demande des investissements énormes. C'est-à-dire, au moment où c'est réalisé, de grandes performances financières, on n'a pas pu bénéficier d'un tiré profit de patrimoine pour prévoir l'après diamant légionnaire et l'étape qu'on devrait passer diamant Kimberley. C'est ce qui explique que ça pose problème. Je sais qu'avec le comité de l'ABA, il y avait des efforts pour investir, mais la plupart des investissements sont avérés aujourd'hui comme des éléphants blancs qui ne profitent pas à la MIBA. Et tout ça fait que actuellement, la société ne fait pas évoluer et elle doit avoir besoin de moyens financiers importants pour arriver à investir dans l'outil de production avant de commencer à produire comme il se doit. Maintenant, à cela, c'est ajouté aussi les prélèvements effectués par le gouvernement. Je sais qu'à un moment donné, surtout avec la guerre de libération, c'est ce qui a été suivi par après, il y a eu beaucoup d'acomptes prélevés par le gouvernement au niveau de la MIBA, ce qui n'a pas permis à la société de continuer à produire au niveau de son seuil de rentabilité. Je crois que ça peut aussi un facteur assez important, et à cela s'ajoute enfin de nombreuses charges sociales que la MIBA supporte. Donc il y a beaucoup de charges qui ne relèvent pas de la production, mais qui ont une nature de risque public, mais qui sont prises en charge par la MIBA. Vous allez trouver des camps, des militaires et des gens qui sont prises en charge par la MIBA, mais les dépenses qui n'ont pas un retour au niveau de la production, qui n'ont pas d'équivalent au niveau de la production. Et je crois que ça aussi, c'est une des causes qui a fait que la société n'a pas pu recycler son cash flow à travers son cycle de production.
Merci, Lens Kamanya. Michel Nsomo, bonsoir, vous êtes également en ligne.
Bonsoir, monsieur.
Vous êtes économiste et administrateur délégué général de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises congolaises, FENAPEC. Vous avez suivi tour à tour les interventions de Dieudonné Kabamba et Lens Kamanya. Premièrement, vous commencez à réagir à cet ultimatum des agents de la MIBA et sur les causes de la déchéance de la MIBA relevée par l'Amskamoigna.
À propos de l'ultimatum, votre question était de savoir si le cadre était réaliste, que vous avez une analyse de l'AMIBA et si c'est l'ultimatum de 4 ou 5 jours au gouvernement pour réagir, sans quoi, et espérer je ne sais pas quoi. Mais je pense que quand bien même je vous inscrirai l'ultimatum à 3 mois d'ici, à 4 mois, à 6 mois d'ici, cela ne changerait rien, absolument rien, à la situation de l'AMIBA. Parce qu'il est important de savoir que déjà avant l'élaboration du programme du gouvernement 2011, il y avait au début de la décennie 2001-2002, je pense, un travail très scientifiquement élaboré par le ministère des Mines sur la situation de la MIBA, la situation de la gétamine, la situation de beaucoup de cités minières. Et on avait bien fait de faire voir à ce travail qu'il y avait des millions de dollars en termes de santé qui étaient nécessaires pour réhabiliter la MIBA. Je ne crois pas avoir vu un effort significatif de la part du gouvernement pour tenir compte de ce travail scientifique fait par son propre ministère, chargé des mines, pour que la situation n'arrive pas là où nous sommes arrivés. Mais ce que j'ai vu, c'est que, on a parlé de la semaine, mais bien, il faut reconnaître que la situation de la MIBA était déjà légèrement en difficulté avant l'arrivée de la semaine, c'est-à-dire avant la création du fin de la mine. Et il y a des problèmes au niveau de la MIBA, donc il fallait absolument tenir compte. Mais il y a toujours ce problème de gestion un peu malheureuse des entreprises publiques qui sont régulièrement bouffées par l'État lui-même, plutôt que par les gestionnaires. C'est là le problème. Parce que qui autorise au ministère, à la MIBA, au PDG ou au PAD de la MIBA d'effectuer des dépenses qui affectent une gestion calamiteuse d'une entreprise publique, c'est les autorités politiques qui sont en place, qui l'ont nommé, et qui lui servent de parapluie et tout ce que vous voulez. Et en conséquence, la MIBA critique au jour le jour, puis nous en sommes là où nous en sommes. On a une entreprise qui avait aidé le Congo à disposer d'une ville qui avait été surnommée capitale mondiale, à devenir aujourd'hui la ville la plus prestigieuse, la plus riche de la planète, et elle devient l'entreprise la plus misérable de la planète, c'est quand même quelque chose qui crée. Ce sont des causes de problèmes qui devraient être prises notre conscience. Donc, ultimement, on pouvait le réclamer jusqu'à 10 ans, mais une fois de suite, à mon avis, qu'ils sont capables de résoudre ce problème de la vie. 2 millions de dollars aujourd'hui, c'est beaucoup pour ce gouvernement. Je ne me vois pas capable de débourser 2 millions de dollars pour réaliser ces promesses vis-à-vis de la vie, soyons réalistes. À moins que le gouvernement s'en sortisse tant soit peu de l'impérium des institutions internationales, qui pourrait être une situation, disons-le, une pompe d'achèvement, qui nous est promis, comme une place d'or. Tant qu'on a ce rêve du point d'achèvement, il faut exclure cette possibilité de résoudre le problème de l'économie intérieure. Voilà pour ce qui est mon avis.
Alors, pour les causes de la chute de la MIBA, Lems Kamwanya a évoqué le problème de gestion dont vous venez de parler, mais il a aussi parlé de ce prélèvement effectué par le gouvernement de la PEL pour l'effort de guerre et aussi les nombreuses charges sociales de la MIBA.
Moi, je crois qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont capables de faire de très bonnes choses. Et je crois qu'il y aurait eu aussi au niveau de la MIBA des compétences qui étaient tout à fait capables de donner à l'économie nationale une MIBA beaucoup plus prospère et beaucoup plus viable. Il y en a eu. Mais le problème, c'est cette ingérence des autorités politiques dans la gestion de la service publique, c'est malheureuse ingérence pour des intérêts politiciens, c'est ça le problème. Aussi longtemps que nous n'avons pas un état de droit viable où la justice peut s'appliquer à tout le monde sans complaisance, nous pouvons changer de gestionnaire comme nous voulons. Hein. On peut mettre 14 PDP à la MIBA à la fois, mais je crois que tant que nous avons un système de nomination qui repose sur une sorte de clientélisme politique, je ne crois pas qu'il y ait une seule entreprise publique qui devienne viable dans les années à venir. Je ne crois pas à ça aussi longtemps que la justice reste partiale dans notre pays, aussi longtemps que la justice reste une machine contre le plus faible et qui protège le plus fort. Il faut qu'il y ait des gens, que tout le monde pense par là, que des gens qui se croient intouchables, qui se croient propriétaires de la République et qui se croient impressionnés, capables, habilités à faire nommer X ou Y, tant que ces gens-là existeront dans ce pays avec ce genre de prétentions de vérité, nous n'aurons pas l'entreprise politique. Excusez-moi, ce n'est pas méchant ce que je dis, mais ce que je constate en tant qu'analyste, en tant qu'observateur, je me rends compte de plus en plus que lorsque je veux être nommé à un poste d'une entreprise publique en France, si je ne promets pas mener le mien à X, Y, Z, je ne le ferai jamais. Alors, si je le fais, et que, effectivement, les humains se font cela, je suis tenu par ma parole, et je dois aussi respecter, parce que je sais que si je ne fais pas la même personne qui m'a trouvé sa puissance, avec ses nommés, me fera partir. C'est ça le problème, c'est la réalité de ce pays. Il faut bien qu'on arrête ça, les autres. Merci. Il faut une grande révolution dans ce pays pour qu'on arrête ça, c'est ce que je veux dire.
Dieudonné Kabamba, vous répondez à deux petites questions, hein, très, très rapidement. La première, c'est, pouvez-vous nous décrire aujourd'hui la situation, hein, d'un agent MIBA, et puis quelles sont pour vous les causes de la chute de la MIBA?
Merci pour la question. Si je vous demande à vous décrire la situation dans laquelle se trouve le travailleur MIBA, je crois que vous allez pleurer. Les travailleurs MIBA sont méconnaissables sur la rue. Dans la ville, ils sont chassés. Tous ceux qui sont locataires aujourd'hui sont chassés de leur maison. S'il y en a qui peuvent trouver refuge, c'est dans les églises, dans le hangar, partout par là. Et même ceux qui sont logés, surtout dans les cités des travailleurs, les maisons sont dans quel état? D'ailleurs, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a même deux ou trois cas des enfants de travailleurs MIBA qui ont été chassés de salles de l'examen d'État. Si c'était une petite intervention de la hiérarchie, si c'est grave, il y aurait eu cette personne. Donc, c'est pour dire que la situation du travailleur MIBA est indescriptible. Le travailleur MIBA qui était fier hier, qui était le plus beau, le plus grand, le plus économique, le travailleur MIBA qui a fait la fierté de la ville, aujourd'hui, il est l'objet de la risée, je vous assure, de tout le monde. Et ça fait mal quand j'en parle. Et les causes de la chute de la MIBA, en tout cas, à cette question, les intervenants de tout à l'heure, tous deux l'ont dit, cette question, en tout cas, pour le moment, la délégation syndicale, en fait, je trouve que c'est une question qui convient, qui peut être bien destinée à l'employeur. Non pas seulement parce que nous manquons l'alimentation à propos, mais simplement parce que c'est l'employeur qui a posé des actes et qui a pris des décisions sur le fonctionnement de l'aliment. Et à nous, il ne nous appartient pas de juger qui que ce soit. Il appartient à leur mandant, donc les deux associés, c'est ça qu'on voulait la situation, de pouvoir le faire.
Alors, Dieudonné Kabamba, il y a Claude, cet auditeur de Matadi au Bas-Congo, qui dit « La chute de la MIBA tire ses origines depuis l'arrivée de l'AFDL. Dépenser 2 millions de dollars sans penser à payer les agents de cette entreprise, ça fait rire. Comment vous y réagissez ?»
Il a totalement raison. À l'entrée de l'AFDL, nos directeurs, pendant que la population a créé les libérateurs, nos directeurs, les différents responsables de la MIBA étaient sous stress parce qu'on leur exigeait tout ce qu'ils avaient comme moyen, hein, c'est-à-dire l'argent et le diamant. Imaginez-vous pour faire un shipment, pour réunir le diamant qui peut constituer le shipment mensuel. On dépense trop. Il y a d'abord les ressources humaines qui sont dépensées, les ressources financières, il y a le carburant, il y a tout qui entre en ligne de compte pour arriver enfin à réunir un colis de diamants. Et c'est alors que l'AFDL entre. Et on prend tout. Et pour tout ça, il faut recommencer à zéro. Donc, ce qu'il dit est vrai, l'effort de guerre, ça c'est la MIBA, tout le monde le connaît. Je crois que si Laurent Désiré Kabila était encore vivant, il allait me donner raison. Il doit avoir dit à un moment donné qu'il a progressé jusqu'à une façon, parce qu'il a trouvé quand même quelque chose dans les fesses de l'animal. Donc, c'est à l'entrée de l'appel pour une société économique, une société minière comme l'animal, on prend toute la production et on prend tout ce qu'il y avait dans la trésorerie. Et elle doit maintenant commencer à tâtonner pour elle-même. Je crois que cet auditeur a raison et c'est ce que nous confirmons.
L'Emskamoania, il y a un autre auditeur, hein, Ilunga Pi de Mbujima au Kassai Oriental, qui dit « Il me semble évident que cette misère de 5000 familles des agents de la MIBA soit voulue et entretenue comme, entre guillemets, arme de guerre politicienne. »
Mais non, moi je ne peux pas partager cet avis.
au fait, il a entré politiquement en guerre contre 5000 agents de la MIBA par rapport, je prends aujourd'hui, parce qu'en Bougimaï, on dit qu'il y a entre 1,5 million et 2 millions de personnes. Est-ce que c'est les 5000 agents de la MIBA qui déterminent l'ensemble de la ville? Moi, je ne pense pas que ce soit une arme de guerre. C'est plutôt un problème, moi je dirais à un certain moment, c'est d'avoir des problèmes de gestion et aussi le fait qu'il faut que le gouvernement s'engage, qu'il prenne une option sur l'avenir de la société. Parce que si l'option n'est pas clairement levée, si il n'y a pas un appui qui soit visible et qui soit concret et qui soit réalisé au moment opportun, alors là il y a le pire qui arrive. Parce qu'il ne faudrait pas que l'AMIBA, c'est quand même, ce n'est pas une entreprise publique à 100%, c'est une entreprise d'économie mixte. L'État est coactionnaire avec un opérateur privé. Il faudrait qu'à leur niveau, qu'ils arrivent à trouver des solutions. S'ils pensent que ça ne marche pas, c'est comme dans n'importe quelle entreprise. On peut chercher d'autres options qui permettent en fait, à l'État de se retirer et de trouver ceux qui peuvent mettre les moyens dans l'entreprise pour aller de l'avant. Je crois qu'il y a plusieurs options à prendre et à ce jour, il faudrait qu'on invite le gouvernement à prendre certaines options pour l'avenir de la société.
Un autre auditeur, Lems Kamanya, Philippe Masika de Collegio Katanga, les revendications des agents de la MIBA sont tout à fait logiques, mais ils doivent savoir que le gouvernement ne pourra pas répondre favorablement à ces revendications d'ici le 25, car le social n'est pas parmi ses priorités, même si le chef de l'État l'a ainsi décrété.
Non, je crois que ça c'est un jugement qui est assez excessif. Le chef de l'État, il a décrété le social. Je crois que c'est toujours au cœur de ses préoccupations les plus marquantes. Le problème, c'est que c'est les moyens qu'il faut collecter pour arriver à la fois à réaliser toutes ces doléances qu'il y a au niveau du pays, la reconstruction et tout ça. Moi, je pense aussi il faut qu'on évite de considérer les gens de l'AMIBA comme des fonctionnaires. L'AMIBA, c'est une entreprise qui est là pour produire et rentabiliser et prendre en charge ces frais de fonctionnement. Si aujourd'hui on verse les gens de l'AMIBA à des fonctionnaires qui dépendent du trésor public, cela deviendra très compliqué et on n'aura pas de solution, d'autant plus que la plupart des fonctionnaires, nous savons ici les refrains avec Mboudi, les palais de Mboudi, qui apparemment ne représentent pas grand-chose, mais pour les payer, on voit comment les gouvernements ont fait des paiements et on dit que tous les indicateurs ne sont pas réunis pour qu'on arrive à respecter les différents paliers. Si déjà on n'arrive pas à satisfaire les fonctionnaires puissants, vous voulez encore y ajouter des travailleurs d'une entreprise commerciale, je crois que ça va être compliqué. L'option qui doit être prise, c'est qu'il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, comme c'est le cas, on dit on attache 150 000 dollars que l'État doit envoyer. Il faut comprendre que c'est une entreprise qui est là pour créer une valeur, produire, vendre et couvrir ses frais de fonctionnement parmi lesquels les paiements des salaires. Il faut remettre la MIBA dans les conditions de produire et de prendre en charge ses travailleurs. Je ne pense pas que ces travailleurs aient l'intention de devenir aujourd'hui ou même d'avoir aujourd'hui un statut de fonctionnaire de l'État. Je crois qu'à ce niveau-là, il ne faudrait pas qu'on fasse une confusion des gens.
Alors, comment expliquer la chute de cette entreprise, jadis fleurant de l'économie congolaise? Nous en avons parlé. Abordons maintenant la partie liée aux solutions pour relancer la MIBA. Sachez qu'en dehors des propositions au sein même de cette entreprise, il y a eu plusieurs délégations, tant du ministère du portefeuille à travers Madame la ministre du portefeuille elle-même, ses délégués, des Sud-Africains, des Coréens, le Premier ministre et enfin le chef de l'État lui-même. Tous sont passés par la ville de Mbujimayi afin de proposer des pistes de solutions pour une relance de la minière de Bakwanga. Ces pistes allaient du renouvellement des équipements en passant par une réduction des effectifs, ainsi de suite. Pour en avoir une idée claire, nous avons retenu quelques-unes des propositions faites. Commençons par celle du président de la République au mois de novembre dernier.
Nous avons pris la décision de mettre à la disposition de la MIBA les moyens nécessaires pour le redémarrage de ses activités. La volonté de relever la MIBA s'est traduite déjà par des actions réalisées entre 2007 et 2009, qui ont consisté en un prêt garanti par l'État de plusieurs millions de dollars américains, comprenant notamment la liquidation des salaires. De plus, sur le plan de redressement de la MIBA, prévoit la mise à disposition à court terme de la somme de 20 millions de dollars américains à disponibiliser par l'État dès le début de l'année prochaine ou avant la fin de cette année, si possible.
Écoutons maintenant la proposition du Premier ministre Adolphe Mozito au mois d'août dernier pour toujours la relance de la MIBA.
Nous allons financer transitoirement, nous gouvernement, en partenariat avec certains fournisseurs de la MIBA, une période de transition d'une année et demie qui a déjà commencé parce que la direction de la MIBA avec ses cadres sont en train de préparer d'ici 6 mois pour qu'on puisse reprendre. Et là, nous allons préparer le financement, renouveler l'outil de production, mais surtout acquérir les pièces de rechange et pour que l'activité reprenne. Dans l'entretemps, nous puissions finaliser les études de faisabilité, que nous puissions certifier les gisements qui sont là et que nous mettions ces potentiels sur le marché pour que les partenaires privés qui voudront venir avec nous, qui viennent avec nous. 100 millions de dollars pour cela, ce n'est pas un miracle pour nous.
Voilà, 100 millions de dollars, ce n'est pas un miracle pour le gouvernement congolais. C'est une déclaration du Premier ministre Adolphe Mozito au mois d'août dernier. Michel Soumoué, que faire pour relancer les activités de la MIBA après toutes les promesses faites par les autorités congolaises?
Merci, la question est très grave de conséquences peut-être. Mais relancer la MIBA, c'est d'abord au départ comprendre pourquoi la MIBA a fait faillite. Si nous comprenons pourquoi la MIBA a fait faillite, nous allons corriger les erreurs ou les causes qui ont provoqué cette faillite. C'est la première chose qu'il faut faire. Faire une autopsie claire de la MIBA et savoir qui est responsable de la faillite de la MIBA. Est-ce un problème de mauvaise gestion? C'est un problème d'interférence politique. Si l'une ou l'autre est identifiée comme étant la cause de la chute de la MIBA, il faut qu'on prenne des mesures conséquentes. Ça c'est de 1, de 2. Monsieur le Premier ministre, avec tout le respect que je lui dois, dit que 100 millions de dollars, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un miracle. Si on commence par les 20 millions de dollars dont parle de l'État, et qu'on sait que les 20 millions de dollars, c'est un miracle, alors qu'en sera-t-il de 100 millions de dollars? C'est quand même une question qu'il faut déconcilier. Pourquoi c'est un discours responsable? Ça fait une chose qu'il faut déconsidérer. Dans ce pays, nous avons le degré d'autonomie du gouvernement pour parvenir à débourser 20 millions de dollars en frais d'une activité. Mais je voudrais surtout, monsieur le journaliste, qu'on ne tienne pas, qu'on ne considère pas la MIBA, le cas de la MIBA, comme un cas distinct des cas de toutes les entreprises publiques, même si elle est une économiste, comme étant distinct des cas de toutes les autres entreprises publiques. Nous avons une même maladie à ce qu'on a entreprise dans ce pays, qui va provoquer le gouvernement à chercher des échappatoires pour rien en recourant à une certaine privatisation de l'entreprise publique, parce qu'il y a comme ça le cas dans le discours de l'économie. Privatisation de l'entreprise publique dans les conditions de l'économie aujourd'hui, c'est encore une catastrophe, parce que le secteur privé n'est pas en bonne santé dans ce pays. Il est lui aussi catastrophique, aussi malade que le secteur public. On doit être responsable. Dans un pays où le niveau de connaissance est encore trop faible, on doit faire attention, il faudrait que l'État s'affirme au maximum de son autorité pour sauver la nation et à travers, y compris à travers la gestion des entreprises publiques. C'est très important.
Michel Soumoué, vous avez tout à l'heure parlé d'une étude scientifique qui a été menée par le ministère de Mines, une étude très fournie, mais vous parlez en même temps d'une autopsie claire de la MIBA. N'est-ce pas quelque chose de déjà fait?
Non, parce que l'étude avait abouti à la conclusion qu'il faut à la MIBA 100 millions de dollars dont parle le Premier ministre pour relancer la MIBA. L'étude l'avait déjà dit, c'est vrai. Mais pourquoi cela n'arrive-t-il pas toujours? C'est ça le souci. Pourquoi les 100 millions n'arrivent-ils toujours pas? Ce pays est-il incapable de générer 100 millions de dollars en faveur de la MIBA? C'est à cela que consiste l'autopsie. Où est le problème? Où se trouve l'obstacle? Où se trouve la difficulté? Qui est responsable de cette faillite de la MIBA? Parce que si on ne peut pas trouver les 100 millions de dollars, alors que le Premier ministre dit que ce n'est pas un miracle, pourquoi cela n'arrive-t-il pas? Il faut une autopsie. Il faut qu'on comprenne quel est le problème qui se pose pour que la MIBA ne soit pas en mesure de trouver les 100 millions de dollars dont elle a besoin pour sa relance intégrale. Alors que la MIBA constitue quand même, sur le plan économique de la nation, une sorte de fief de notre pays. Et en tant que moi je suis originaire de la province de Côte-Orientale, un téléspectateur, un intervenant tout à l'heure a dit que les 5 000 familles de la MIBA ne sont pas déterminantes pour la population de Bouzimarin. Mais moi je vous dis, en tant que citoyen de Côte-Orientale, j'ai grandi dans ma province et je sais que la situation des agents de la MIBA était déterminante sur la vie sociale, puisque dans les villages les plus reculés de notre pays. Parce qu'à partir du moment où la MIBA fonctionne correctement, où les salaires sont payés régulièrement, que toute l'économie de la province qui se réveille, qui fonctionne. Aujourd'hui, la province est morte parce que la MIBA est morte, point et tout. Et le pays en souffre également parce que le diamant de la MIBA était quand même une ressource importante d'exploitation qui provenait, qui favorisait un certain niveau de fonctionnement de l'économie nationale, y compris du budget de l'État.
Merci.
Il faut le reconnaître. Donc, une autopsie, j'insiste, l'autopsie signifie que nous devons être capables de regarder la vérité en face et de nous dire les vérités qui s'imposent pour que les entreprises cessent de mourir à cause de notre propre mauvaise foi.
Merci.
C'est important pour ce dire.
Merci à Dieudonné Kabamba, premier vice-président de la délégation syndicale de la MIBA. Que faut-il pour vous pour que la MIBA reprenne ses activités aujourd'hui ou se relance complètement?
Merci beaucoup. La question est très très bien posée et elle contient même la réponse. C'est-à-dire, pour que les activités reprennent. Je ne sais pas si vous avez suivi vous-même ce que les autres ont dit. Après toutes les promesses faites par les autorités congolaises, je crois qu'il est évident que les autorités réalisent leurs promesses un point, un trait. Plus ça prend du temps, toutes les ressources humaines, techniques, et que sais-je encore, se détériorent et s'abîment, au risque d'être même irrécupérables. Donc, ce que je veux dire est que nous connaissons qu'il y a des réalités dans notre pays, mais que les autorités qui ont fait des promesses, je vous dis en passant que nous avons reçu le nom de la République dans cette province et dans cette ville. Ils le venaient pour les sinistrés. Après les pluies diluviennes, il y en a qui ont perdu leur maison, il y en a qui se sont retrouvés dans des conditions inacceptables. Quand il y a eu même de mort, quand il a pris de ça, il a opté pour une visite sur un bouchemail. Quand il est arrivé, imaginez-vous, les vrais sinistrés ont déclaré les travailleurs MIBA sinistrés. On fait partie du passé, on lui disait MIBA, 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 MIBA. Donc, il faut dire que il est dans l'obligation, il est prié d'accomplir, de réaliser ses promesses. Voilà tout ce que je peux dire. Si pas lui, le gouvernement est là. Hein?
Merci.
Ok.
L'EMS Kamoanya, une autopsie claire de la MIBA, le gouvernement doit tenir ses promesses, promesses que nous venions d'entendre tout à l'heure des plus hautes autorités du pays. Que faut-il pour vous pour relancer la MIBA?
Oui, merci. Hein. Je pense avant de vous donner la réponse, j'aimerais d'abord corriger quelque chose par rapport à l'intervention de M. Somoy. Je n'ai pas dit que les 5000 travailleurs de la MIBA ne représentent rien. J'ai voulu répondre par rapport à votre question. Vous avez considéré que, est-ce que le fait que le gouvernement n'assiste pas, cela peut-il être considéré comme une arme politique vis-à-vis de ces gens? Je crois que toute l'importance de la MIBA est connue. Aujourd'hui, sans la MIBA, on ne peut pas parler de l'économie du développement de la province du Kasaï-Oriental. Ça, c'est une vérité indéniable et que nous devons reconnaître. Mais ce que moi, je ne voulais pas admettre, c'est dire qu'on le fait pour punir 5 000 travailleurs de la MIBA. Moi, j'ai dit, si punition il y a, ça doit s'élever à l'échelle de l'ensemble de la province que considérer les 5 000 travailleurs. Mais en revenant à votre question sur comment on peut relancer aujourd'hui la MIBA par rapport aux différentes promesses, je pense que si nous suivons le discours du chef de l'État avec les 20 millions qui ont été promis, cela correspond au fait aux exigences qu'il y avait dans la feuille de route qui avait été élaborée par les coopératives avec le ministère du portefeuille pour arriver à relancer la MIBA. Parce qu'actuellement, on s'est dit la MIBA est à l'arrêt. Il faut d'abord qu'il y ait au moins 3-5 millions de dollars pour faire une réhabilitation minimale de l'outil de production. Il faut au moins 5 à 6 millions de dollars que nous pouvons injecter comme fonds de roulement pour 3 mois de fonctionnement. Il y a 5 à 6 millions de dollars qu'il faut encore investir pour les salaires et il faut 2,5 millions à 3 millions de dollars pour permettre à ce qu'on puisse aujourd'hui certifier les réserves de la MIBA. Les 20 millions, ce n'est pas pour remettre la MIBA comme elle était en son temps, c'est juste un montant minimal
qui permet une petite reprise de la production, pendant qu'on est en train de certifier les réserves minières de la MIBA. Les besoins réels de la MIBA, le minimum, c'est 100 millions. On peut aller à 150 à 200 millions, il y a plusieurs études. Mais pour arriver à injecter ces montants dans la MIBA, nous devons nous assurer qu'il y a assez de réserves qui peuvent permettre qu'on exploite et qu'on récupère les montants qui ont été investis. Mais on ne sait pas aujourd'hui confirmer qu'en injectant les 150 millions, il y a même des banques qui voulaient le faire, mais qui n'ont pas l'assurance sur les réserves de la MIBA. C'est pourquoi la chose la plus importante à réaliser aujourd'hui, et qui se trouve dans ces 20 millions, c'est arriver à certifier les réserves de la MIBA. Dès que c'est fait, à ce moment-là, on se dira, on a telle valeur, même si on émet 100 ou 150 millions, qu'on peut avoir au niveau des banques privées qui peuvent financer, ou qu'on peut avoir par une augmentation du capital de la MIBA, au moins on est sûr qu'on a une solution durable pour la MIBA. Mais tant qu'on ne le fait pas, on est en train de naviguer à vue. C'est ça la réalité.
Merci, Lems Kamanya. Michel Soumoué, à un moment de l'émission, Lems Kamanya a aussi dit qu'il fallait que le gouvernement détermine une vision claire de ce qu'il voulait faire de la MIBA. Avec le point d'achèvement qui nous guette, pensez-vous que l'avenir de la MIBA sera facilement déterminé?
C'est-à-dire que, monsieur le journaliste, à mon humble avis, ce que nous pouvons dire en un mot, c'est que pour que la MIBA se mette debout ou qu'elle reste tapis par terre, il faut une volonté claire du gouvernement. C'est le gouvernement qui veut ou qui ne veut pas que la MIBA, ça c'est ce qu'il doit tout faire. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, il est prouvé que l'Inde, par exemple, un pays comme l'Inde, n'a plus qu'un seul carat de diamant pour son sol. Mais l'Inde continue à faire des recettes d'exportation qui se chiffrent à terme pratiquement, ou qui approche à dizaines de milliards de dollars, des recettes d'exportation du diamant qui ne sort pas de son sous-sol. Il n'y a pas une entité qui produit du diamant comme la MIBA. Donc, même quand on parle de la certification des réserves de la MIBA, je considère pour ma part que c'est encore un très gros problème. Si on veut que la MIBA fonctionne comme une entreprise minière, fiable, crédible et prospère, on le peut. Et si on le veut, on le pourra. Et la MIBA, avec ou sans réserve minière, sera capable de demeurer une entreprise minière prospère. Parce que l'Inde qui fait des milliards de dollars de recettes de sortie du diamant n'a pas un seul carat de diamant sous son sol. Il n'en a plus un seul. Tout a été utilisé depuis des années, des décennies, des années, il n'y a plus une seule réserve minière. Mais cependant, nous, avec la MIBA, et avec la vie du bougement et du capital mondial du diamant, comme on le disait, avec tout ce que nous avons comme contenu aux réserves minières dans ce pays, nous avons une entreprise minière qui patauge parce que la volonté politique n'y est pas.
Conclusion, Michel Soumoué.
Conclusion. À mon humble avis, je pense parfaitement, lorsque vous parlez du point d'achèvement, encore une fois, je me dis que je suis très malheureux de constater que dans mon pays, on considère l'atteinte du point d'achèvement comme un critère de performance dans la gestion de la chose publique, et ça c'est malheureux.
Merci.
Pour un pays qui se dit être décrété, reconnu officiellement pays pauvre et très endetté, est un bon critère de gestion. J'estime ça, à mon humble avis, malheureux.
Même
on me dirait c'est un concept technique, mais il reste malheureux de se reconnaître publiquement incapable de payer ses dettes et qu'on doit venir en aide pour gagner le monde international. Je trouve ça malheureux.
Merci, Michel Soumoué. Dieudonné Kabamba, à conclusion, parce que l'émission va toucher à sa fin.
Je commence par féliciter d'abord les travailleurs de MIBA qui ont tenu jusqu'à maintenant. En leur nom, je demande au gouvernement congolais d'entendre ce cri de détresse et d'être aussi réaliste face à cette promesse.
Merci. Merci, Dieudonné Kabamba. Lems Kamanya, en un mot, je vous en prie, la conclusion.
La conclusion, c'est que le gouvernement a déjà fait un pas en inscrivant les 20 millions dans son budget. Il appartient aujourd'hui au premier ministre, au ministre des Finances et du Budget, de faire tout pour qu'il y ait quand même un début de questionnement de ce que le gouvernement a prévu pour la MIBA.
Merci, Mme Skamoigna. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. La rediffusion de cette émission est à 4h15, heure de Kinshasa. Vous pouvez retrouver également cette émission sur radiocapi.net. Restez branchés sur la fréquence de la paix. Au revoir. Thank you.